Bienvenue sur les chroniques de la revue française de comptabilité. À l'occasion de la parution de son 600e numéro, la RFC vous propose aujourd'hui une exploration de la flexibilité comptable. On s'inspire pour cela de l'article « Améliorer l'information financière » d'Éric Thor, professeur des universités associé à l'IAE Lyon. Notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu cette flexibilité qui existe dans les comptes individuels français, celle qui vient du jugement, des estimations, des choix de méthode permis par le plan comptable général. Alors commençons peut-être par ça, par les choix de méthode comptable. Comment le plan comptable général, le fameux PCG, il encadre ces options ?
Oui, alors le PCG pose effectivement un cadre, une méthode comptable, selon l'article 121.5, c'est l'ensemble des principes, des règles, des pratiques pour évaluer, comptabiliser, présenter les opérations. L'idée de base, c'est la permanence des méthodes. Une fois qu'on a choisi une méthode, il faut l'appliquer de manière constante. Mais au départ, il y a des choix. Et on peut les classer en, disons, deux grandes catégories.
D'accord.
La première, ce sont les méthodes qu'on appelle de référence. Il y en a quatre qui ont été définies par l'ANC, l'autorité des normes comptables.
Ah oui.
Elles sont vues comme permettant une meilleure information. Et le choix de les adopter, il est irréversible. Et l'entreprise n'a pas à justifier pourquoi elle prend cette méthode de référence.
Irréversible et sans justification nécessaire. D'accord. Un exemple.
L'exemple typique, c'est la comptabilisation des engagements de retraite selon la méthode intégrale prévue à l'article 324.1. Et d'ailleurs, c'est intéressant, certaines de ces méthodes de référence sont maintenant obligatoires dans les comptes consolidés, depuis un règlement ANC de 2020.
D'accord, ça c'est pour les méthodes de référence. Et la deuxième catégorie ?
La deuxième catégorie, c'est là où le PCG donne explicitement un choix entre plusieurs méthodes possibles. Les textes d'application, l'IR2 pour être précis, listent même une dizaine de situations. Par exemple, pour évaluer les stocks de biens fongibles, interchangeables quoi.
Oui, comme des matières premières par exemple.
Exactement. L'entreprise peut choisir entre le coût moyen pondéré, le CMP, qui va lisser les coûts, ou la méthode du premier entrée, première sortie, le fameux FIFO, qui suit plus le flux physique.
D'accord.
Autre exemple, ZUID, les coûts d'emprunt. Pour financer un actif, on peut soit les passer directement en charge de l'exercice, soit les incorporer au coût de l'actif lui-même, selon l'article 213.9. Deux options, deux impacts différents sur le résultat, bien sûr.
Oui, je vois. Donc une latitude qui est quand même non négligeable, déjà rien qu'au niveau des méthodes. Mais la comptabilité, ce n'est pas juste cocher des cases. Il y a aussi une part de jugement, n'est-ce pas ?
C'est là qu'on parle d'estimation comptable.
Tout à fait.
C'est vraiment l'autre pilier de cette flexibilité. Le PCG, à l'article 122.4, les définit bien. Une estimation comptable, c'est le résultat de l'exercice du jugement. Il s'agit d'évaluer au mieux une transaction ou un élément en utilisant les informations disponibles à un instant T, quand il y a une incertitude sur la mesure exacte. C'est vraiment du cas par cas.
Donc, on n'est plus dans un choix de règle générale, mais dans une évaluation spécifique.
C'est ça. Et c'est très important de distinguer un changement d'estimation d'un changement de méthode, dont on parlait juste avant.
Oh oui, quelle est la différence fondamentale en termes d'impact ?
Un changement de méthode, comme passer du CMP au FIFO pour les stocks, c'est un changement de principe. Sauf exception, ça a un impact dit rétrospectif. C'est-à-dire qu'on ajuste les capitaux propres comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode.
D'accord, on corrige le passé.
Voilà. Alors qu'un changement d'estimation, lui, il résulte de nouvelles informations, de nouvelles circonstances. Par exemple, on se rend compte qu'un équipement va durer plus longtemps que prévu initialement. Là, l'impact est uniquement prospectif. Ça veut dire que ça affecte le résultat de l'exercice en cours et éventuellement des exercices futurs, mais on ne revient pas sur les chiffres des années précédentes. C'est l'article 122.5 qui précise ça.
C'est une distinction clé, en effet. Prospectif pour l'estimation, rétrospectif pour la méthode. Pourriez-vous nous donner quelques exemples concrets où ces estimations jouent un rôle majeur ?
Oh, ils sont partout.
Vraiment ?
Le recueil des normes comptables françaises en cite plein. L'exemple le plus simple, c'est estimer la durée d'utilisation d'une immobilisation pour calculer l'amortissement.
Oui, bien sûr.
Pensez aussi à la valeur d'usage d'un actif. Pour savoir s'il faut le déprécier, on doit estimer les flux de trésorerie futurs qu'il va générer. C'est une estimation par nature.
Forcément.
L'évaluation des provisions pour risques et charges, c'est un autre grand classique. Quelle somme mettre de côté pour un litige, une garantie client ? C'est la meilleure estimation du décaissement futur. On peut aussi parler des hypothèses actuarielles pour les engagements de retraite, quand ils sont provisionnés. ou encore l'estimation du résultat à terminaison sur les contrats long terme. L'ANC a d'ailleurs identifié une dizaine de postes particulièrement dépendants de ces estimations.
C'est vrai que ça touche beaucoup d'éléments clés du bilan et du compte de résultat. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, la flexibilité comptable à la française, elle repose sur ces deux grands axes. D'un côté, des choix de méthode, qui sont quand même bien structurés par le PCG et l'ANC.
Tout à fait.
Et de l'autre, ce recours nécessaire, inévitable même, aux estimations qui font appel au jugement professionnel face à l'incertitude inhérente à l'activité économique.
C'est une excellente synthèse, c'est exactement ça. Cette flexibilité, elle est nécessaire pour que la comptabilité reflète au mieux la situation spécifique de chaque entreprise. Mais, et c'est le point crucial, elle a une contrepartie indispensable, la transparence. C'est là que l'annexe aux comptes annuels prend toute son importance.
Oui.
L'entreprise doit y expliquer clairement les méthodes qu'elle a choisies et surtout les estimations et les hypothèses clés qu'elle a utilisées. Sans cette transparence, la qualité et la comparabilité de l'info financière seraient vraiment compromises.
Ce qui nous amène peut-être à une question pour ouvrir la réflexion. Est-ce que cet équilibre que cherche le normalisateur français entre une flexibilité qui est quand même encadrée et la pertinence de l'information, est-ce qu'il arrive toujours à garantir une comparabilité suffisante entre les entreprises pour ceux qui lisent les comptes ? C'est sans doute un débat qui n'est jamais clos. La Revue française de comptabilité vous remercie et vous donne rendez-vous sur le site revuefrançaisedecomptabilité.fr.